À propos du décret Perfecte Caritatis, je pose la question qui reprend le titre d'un livre célèbre. Est-ce maintenant un temps pour les ordres religieux? Nous allons voir comment répondre à cette question. Nous allons donc reprendre ce soir, après une petite interruption, cet impressionnant voyage que nous avons décidé audacieusement de faire. Ce grand voyage qui nous fait traverser le plus grand nombre possible des 16 documents du Concile qui, 50 ans après, mérite encore la lecture, pensons-nous, et surtout si cette lecture est mise dans un contexte actuel, puisque nous évaluons, 50 ans après, le chemin parcouru. Le décret sur les religieux, on disait encore à l'époque les religieux, fait partie des 11 textes que nous avons retenus. J'espère qu'à la fin de cette leçon, vous comprendrez mieux que ce sujet si singulier, les religieux, touche en fait tous les membres du peuple de Dieu d'une façon tout à fait centrale. Je commence par nous resituer sur la carte de notre voyage, si vous voulez, grâce à un article récent de Mgr Joseph Doré dans la documentation catholique international. Mgr Doré résume par quatre mots l'enseignement des quatre constitutions conciliaires que nous avons nous-mêmes considérées comme l'axe, plutôt les quatre points cardinaux du concile. Alors il dit ceci, l'essentiel de l'enseignement de Vatican II peut tenir en quatre mots, c'est intéressant, hein, tout le concile en quatre mots, célébration. Ça, c'est Sacrosanctum Concilium, la liturgie, rappelée du Père Gervais. Communion, ça c'est Lumen Gentium, comme je vous l'ai exposé. Confession, ça sera la semaine prochaine, ce que le Père Warny vous expliquera à propos de la constitution sur la révélation. Confession veut dire confession de la foi, hein, promulgation de la foi. Et puis mission, alors ça ce sera à la fois le décret sur les missions, dont on parlera, et puis Gaudium et Spes, la grande constitution pastorale. Donc, célébration, communion, confession, mission, c'est les points cardinaux de Vatican II. Alors, Vatican II, c'est le premier de tous les conciles œcuméniques à traiter de la vie religieuse sur un modèle qui n'est pas celui de la discipline, de dire aux religieux, attention, vous êtes dévergondés, rangez-vous, non ? Ça, c'est ce qu'avait fait le concile de Latran au XIIIe siècle, ou sur le modèle de l'apologétique, la défense et illustration de cet état de vie, comme l'avait fait le concile de Trente. Non, non. Ici, à Vatican II, c'est une réflexion vraiment doctrinale, théologique, doctrinale, en vue d'une pastorale qu'on a voulu faire ici comme ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, on voulait aborder dans un esprit pastoral les fondements doctrinaux qui avaient déjà été posés par Lumen Gentium, comme je vais vous le rappeler. Donc, je commencerai par un premier point sur le chapitre 6 de Lumen Gentium. Rappelez comment la Constitution fonctionne, hein. Les chapitres vont deux par deux. L'Église vient de la Trinité, elle prend forme dans l'histoire. Elle est constituée hiérarchiquement. D'un côté, il y a la hiérarchie, de l'autre, le laïcat. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure de l'Église. L'autre, c'était le mystère de l'Église. C'est un mystère qui se structure d'une certaine façon. Voici la constitution de l'Église. Mais cette constitution est au service d'une mission. Et cette mission est d'abord une mission de sainteté. Tous appelés à la sainteté. Ici, c'est pas seulement pour les laïcs, mais c'est pour tous, y compris les religieux qui sont là. Mission de l'Église, la sainteté. Les religieux sont comme une figure de cette sainteté. Et puis, tous aussi sont appelés à cette vocation finale, eschatologique, qu'est la communion des saints. On a regardé de très près ce chapitre ensemble. Et la constitution finit sur la figure typique, typologique de la Vierge Marie, icône eschatologique de l'Église. En elle, déjà, Dieu a réussi, puisque l'Église vient de Dieu, et dans les saints et la Vierge Marie, déjà, elle est retournée à Dieu. Il n'est que de suivre la route. C'est le chemin pour tout le monde. Alors, c'est là que, dans cette grande constitution dogmatique sur l'Église, que, pour la première fois, on instituait la vie religieuse. Jusque-là, la vie religieuse était comme cloisonnée, enfin. D'un côté, l'Église, de l'autre côté, la vie religieuse. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est certainement l'essentiel de l'enseignement du Concile, d'avoir mis la vie religieuse dans l'Église. De ce petit rappel, je retiens que un chapitre sur les religieux a toujours été intégré, toujours, depuis le commencement, hein, au schéma sur l'Église. Il n'est pas arrivé en dernière minute, non. Il y a toujours eu quelque chose. C'était d'abord autonome, et puis ça a été divisé, ça a été refusionné, ça a été redivisé, etc. Mais depuis le commencement, on a voulu parler des religieux dans la Constitution sur l'Église. Bien entendu, on parle des religieux encore ailleurs que dans l'Lumen Gentium, pour l'ensemble du Concile. Alors j'en ai fait le relevé un jour où j'avais bien le temps, parce que j'étais jeune, j'étais étudiante, enfin voilà, c'est ça. Déjà dans Sacrosanctum Concilium, on parle de la vie religieuse. Par exemple, au numéro 80, 98, 101, on a demandé à la vie religieuse de se réformer pour sa célébration de la profession, qui aura lieu de préférence au cours de la messe. Mais la plupart des sacrements ont été mis de préférence au cours de la messe. Et puis on a demandé à l'ordre des Vierges de reprendre son antique rituel qui avait été abandonné depuis des siècles, etc. Donc déjà dans la Constitution sur la liturgie, il a été question de la vie religieuse ou plus largement de ce qu'on appelle maintenant la vie consacrée. Je vous dirai un mot de ça tout de suite. Après, plus tard, d'après votre petit schéma, vous pouvez peut-être vous retrouver, il y a aussi céder. Céder, c'est pas le corps diplomatique, hein, c'est Christus Dominus, c'est le décret sur les évêques que nous n'aurons pas le temps de regarder. Mais dans ce décret, on appelle la vie religieuse à un apostolat concerté avec les évêques, mais aussi concerté avec le clergé, et même concerté avec les autres instituts religieux, ce qui était peut-être un peu plus difficile encore. Et puis, vous avez le décret Ad Gentes sur les missions, où on a dit cette formule extrêmement intéressante, n'est-ce pas, au numéro 18, « La vie religieuse manifeste avec éclat et fait comprendre la nature intime de la vocation chrétienne. » Qu'est-ce qu'il y a dans la vie religieuse? Rien d'autre que dans la vocation chrétienne, mais elle le manifeste avec éclat, alors que partout ailleurs, elle est intimement vécue. On va revenir à cette façon de penser. Mais on dit aussi dans ce décret que l'Église n'est pas établie tant que la vie religieuse n'est pas née en son sein, dans les jeunes chrétientés. Très important. Donc, il y aura aussi des choses dans Gaudium et Spes, mais je n'en parle pas pour l'instant. Je veux vous parler du décret Perfecte Caritatis, sur la perfection de la charité. Alors, ce décret commence, n'est-ce pas, par ses premiers mots, c'est charité parfaite, hein, Perfecte Caritatis. Vous avez peut-être le numéro 1 sous les yeux, je ne sais pas ceux qui auraient par chance acheté le concile, si je puis dire. Alors, ce numéro 1 commence comme ceci. Dans la constitution Lumen Gentium, le Concile a précédemment montré que la recherche de la charité parfaite par les conseils évangéliques a sa source dans l'enseignement et l'exemple du divin maître, Christ, et apparaît comme un signe éclatant du royaume des cieux. La recherche de la charité parfaite par les conseils évangéliques, c'est pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde. Tous les chrétiens doivent vivre les conseils évangéliques, en général. La pratique des conseils évangéliques, c'est pour tout le monde, en tout cas de certains. Saint François de Sales disait « Dieu ne veut pas que tous les chrétiens vivent tous les conseils. » Ce serait monotone, si vous voulez. Mais pour les avocats, c'est ceci, et pour les gens mariés, c'est cela, etc. Il y en a beaucoup des conseils évangéliques, il y en a une quarantaine dans l'Évangile. Tandis que les religieux, eux, ils professent de pratiquer les conseils évangéliques, surtout trois, de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Donc eux, ils professent, ils ont comme profession ce qui est commun à tous les chrétiens. Ils ont en propre ce qui est commun à tous. Qu'est-ce qu'il y a de propre dans la vie religieuse ? Rien d'autre que ce qui est commun à tous les chrétiens, mais c'est leur propre. Ils professent de pratiquer les conseils évangéliques, les autres les pratiquent. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas ? Les religieux font vœu de pauvreté et les laïcs le vivent, hein ? C'est ce qu'on dit souvent. Je continue le numéro 1 parce que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, le Concile se propose de traiter de la vie et de la discipline des instituts dont les membres font profession de chasteté, pauvreté et obéissance, et de pourvoir à leurs besoins selon les exigences de l'époque actuelle. Alors, vous avez deux choses encore à dire, ici, à souligner. Toujours, toujours, uniformément, le Concile dira d'abord chasteté, ensuite pauvreté, ensuite obéissance. Jusque-là, ce n'était pas comme ça. On commençait toujours par la pauvreté. C'est l'ordre pédagogique, si vous voulez. C'est souvent comme ça que commence une vocation, dans un dépouillement des choses de superflues, etc. Bien, ça, c'est l'ordre pédagogique. Non, le Concile dit ce qui compte d'abord, c'est la chasteté. Ce qui est le critère discriminant, c'est la chasteté vécue d'une certaine façon, parce que la chasteté doit être vécue par tous les chrétiens, mais ici, elle est vécue dans le célibat pour le Christ, ce qui est différent. Donc, et puis l'autre chose, c'est de dire selon les exigences de l'époque actuelle. Donc, on ne va jamais dire aux religieux, convertissez-vous, vous êtes des infâmes, vous êtes complètement déviants, vous êtes décadents. On ne va pas leur dire ça, parce qu'on ne trouve pas qu'ils sont décadents d'ailleurs. Mais on va leur dire, adaptez-vous, réformez-vous. Adaptation, accommodation adaptée, dit le mot latin, intraduisible. Voilà, adaptez-vous. Donc nous allons maintenant regarder ce décret Perfecte Caritatis. Il est né dès la première session du Concile. Il existait là, ce futur décret. Mais ce n'était pas le même, n'est-ce pas ? C'était un projet de... C'est malheureux, hein ? La seule chose qui ne marche pas dans cette maison, c'est le micro. Alors, donc, c'était un long décret de... Combien de pages ? J'ai vu qu'il dépassait 60. Il avait 62 pages. Un texte de 62 pages, juridique, très long, qui n'avait même pas été discuté à la première session. Vous vous rappelez, cette première session, aucun texte d'ailleurs n'est sorti, n'a été promulgué, et on en avait seulement discuté 5 sur les 72. Donc celui-là, certainement pas, hein, les religieux après, quoi. Alors, il a fallu réduire, quand on a restructuré grâce au plan Sunens, etc., il a fallu réduire. Et on a donné, ce premier projet a donné naissance à un autre de 30 pages, progrès, 62 pages, 30 pages, qui fut transmis au Père. Ils ont écrit leur réaction, et à ce moment-là, le Concile était préoccupé par la confection de l'Lumen Gentium, donc on n'a pas eu beaucoup de temps non plus de s'occuper de ce texte à la deuxième session, reporté donc à la troisième session. Et entre-temps, la commission de coordination avait établi un plan Dupfner à l'allemande, et il avait réduit le texte à 4 pages. Formidable. 62-34. Squelettique. Donc, attention, les pères se sont rendus compte, au moment où on discutait de toutes ces questions, que sur les presque 3000 qu'ils étaient, un tiers étaient des religieux. Un tiers était issu de l'État religieux. Hein ? C'est encore à peu près la proportion aujourd'hui. Je dis ça pour ceux qui croient qu'ils ont des chances. Oui, ouais, c'est comme ça. Et puis, ce texte, alors, a été amendé, étoffé, et soumis dans une quatrième version au début de la troisième session du Concile. Il y a eu des propositions qui ont été facilement, ou des paragraphes, des numéros qui ont été facilement acceptés. Les actuels numéros 18 à 24, qui sont là, sur votre feuille, là, parce que je pense que vous avez une autre feuille avec le plan, là. Des 18 à 24, ça allait tout seul. Mais les premiers numéros, pas du tout, n'est-ce pas ? Les propositions initiales durent être revues et elles ont supporté un nombre considérable de modifications, 14 000 modifications. Le texte sur la pauvreté en a subi lui-même au moins 2 000 ou 3 000. Donc c'est alors qu'est née la dernière version du texte, distribuée au début de la 4e session. Les pères l'ont approuvé, selon l'habitude que vous connaissez maintenant, accepter l'ensemble de la rédaction, puis voter par morceaux, etc. Et c'est le 28 octobre que la dernière version du texte a fait l'objet d'un dernier vote favorable et a été solennellement promulguée par Paul VI. Qu'y a-t-il dans ce décret ? Alors, je me suis permis, dans cette table des matières, qui reprend des sous-titres non officiels, mais quand même, qui apparaissent dans toutes les versions, je pense, sauf la dernière du Concile, je me suis permis d'ajouter 4 sous-titres pour montrer un peu les parties, comment ça fonctionne, quoi. Il me semble qu'on peut dire que le document décrit d'abord les critères du renouveau, rénovation adaptée, premièrement. Ensuite, il va donner, disons, les fondements communs à toutes les formes de vie religieuse, consécration à Dieu et mission. Ça, c'est pour toutes les formes. Puis, il va s'employer à décrire la diversité des instituts. Ces sous-titres sont là, hein, sous vos yeux. Hein. Diversité des instituts. Voilà. Et aussi, moi je crois que ça fait partie du même mouvement, il va montrer que ces instituts sont diversement engagés dans leur visibilité, je vais m'expliquer. Et puis enfin, il va montrer les chemins de l'avenir, ses utilités pour l'Église. Est-ce que c'est utile au fond pour l'Église, la vie consacrée ? Nous allons maintenant regarder de plus près ce qui est dit là. Et qui consiste à montrer chaque fois que la vie religieuse doit se rénover en s'adaptant. En s'adaptant à l'esprit des fondateurs, première division, en raison du fait que Dieu la consacre pour la mission, ce sera la deuxième partie, dans une charité parfaite, dit la troisième partie, que l'Église protège et soutient, dit la quatrième partie. Je reprends ces parties. Rénovation adaptée. Intraduisible formulation latine, bien sûr, pour dire que la vie et aussi la discipline religieuse doit s'accommoder, enfin se réformer, voilà, et que ces recommandations vont concerner les instituts religieux et, compte tenu de leur caractère propre, les sociétés de vie commune sans vœux, ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés de vie apostolique, dans toutes les grandes sociétés missionnaires, comme les Pères Blancs, etc. Et les Sœurs de Saint-Vincent-Paul, qui ne sont pas des religieuses, mais une société de vie apostolique, on ne le sait pas assez. Et puis, ici aussi, les instituts séculiers. Donc, ces formes nouvelles de vie consacrée, en effet. C'est grâce à eux qu'on a eu ce concept de vie consacrée, né en 1947, dans la constitution Provida Mater qui reconnaissait les instituts séculiers, où le pape Pie XII a employé l'expression « vie consacrée » par la profession des pensées évangéliques. Alors d'un coup, les religieux se trouvaient mis dans une sous-catégorie, puisque la première grande catégorie, c'était « vie consacrée ». Et dans cette vie consacrée, il y a bien sûr les religieux. Le gros de la troupe, ce sont les religieux. Mais il y a également, ce que je viens de dire, les sociétés de vie apostolique, c'est pas rien. Et puis les instituts séculiers qui sont nés avec tout l'essentiel de la vie consacrée, mais aucune des formes de la vie religieuse. Pas d'habit, pas d'habitat commun, pas d'œuvre commune, etc. Enfin, presque sur tous les points contre-distingués de la vie religieuse. Et puis on a reconnu à nouveau ces formes très antiques de la vie consacrée, les premières d'ailleurs, que sont la consécration des vierges, l'ordre des vierges, et les ermites. Et les ermites. Tout de même, c'est beaucoup plus vieux encore que la vie religieuse qui ne naît, semble-t-il, que dans sa forme monastique, en tout cas qu'au IVe siècle. Voilà. C'est tout ça la vie consacrée, plus peut-être de nouvelles formes qui sont en train d'émerger aujourd'hui, selon le canon 605, pour ceux qui connaissent un peu de droit canon. Alors, je reviens à mon numéro 1 ici. C'est numéro 1, qui ça concerne? Le numéro 2, cette rénovation se caractérise comment? Par un retour aux sources de toute vie chrétienne, c'est-à-dire l'Évangile, l'Eucharistie, mais aussi à l'inspiration originelle des instituts. Il faut retourner à l'inspiration des fondateurs, dit-on. Alors c'est bien que vous avez un fondateur identifiable, mais un certain nombre d'instituts qui n'ont pas de fondateur identifiable, ou pas de fondateur, sont des groupes fondateurs plutôt que des individus. Puis d'autre part, dit toujours ce numéro 2, on se rénove en correspondant aux conditions nouvelles de notre temps. Modernisation, disons. Alors ça, c'est sous l'impulsion de l'Esprit-Saint et la direction de l'Église, toujours le Saint-Esprit d'un côté et l'Église de l'autre, si j'ose dire. Hein. Quelquefois, ils se rencontrent, hein. Mais enfin. Bien. La vie religieuse, alors, va faire sa réforme avec ces principes-ci, qui sont donnés là, numéro 2, suivre le Christ, bien sûr, dans le respect du patrimoine de l'Institut, c'est pas rien d'appartenir à telle lignée, communier à la vie de l'Église, oui, communier à la vie de l'Église pour secourir les hommes, et surtout, prima partes, avant tout, rénovation spirituelle. D'abord. Alors, les critères de ce renouvellement, c'est au numéro 3, vont venir des conditions actuelles des religieux. C'est les religieux d'aujourd'hui qui doivent se renouveler. Donc, en partie, l'inspiration va venir d'eux, et aussi des besoins de l'apostolat, tout de même. Quelle que soit la forme de vie consacrée, il y a toujours une dimension apostolique. Numéro 4, tous les membres des instituts, et pas seulement les supérieurs ou les chapitres généraux, qui rassemblent certains instituts, certains religieux nommés pour ça, sont les acteurs de cette réforme. Qui doit se réformer? Les supérieurs? Tout le monde. Et donc, qui va aider à la réforme? Tout le monde. C'est très démocratique, la vie religieuse. C'est même la seule démocratie. Hein, vraiment. Bon, je résume. Donc, le Concile Vatican II n'appelle pas la vie religieuse à se réformer de l'intérieur, comme si elle était en décadence, disais-je. Le Concile de Trente l'avait fait. Il lui demande de se renouveler, mais en s'adaptant mieux. Ce n'est pas une vie décadente, c'est une vie inadaptée, en fait. Qu'elle s'adapte au Christ, qu'elle s'adapte à l'Église, qu'elle s'adapte au monde, qu'elle s'adapte aux religieux qui sont là, aujourd'hui. C'est ce qu'on lui demande. Ce n'est donc pas une réforme disciplinaire. Il y a là une visée de renouveau christologique, hein, on va vers le Christ, ecclésiologique, c'est dans l'Église, et pastorale, parce que quand même, tenez compte de l'apostolat auquel vous êtes appelé. Deuxième partie, que j'intitule « Consécration à Dieu et à la mission de l'Église ». Quels sont les éléments communs à toutes les formes de vie religieuse? C'est difficile à dire. On dit toujours que Dieu ne sait même pas, n'est-ce pas, le nombre de congrégations féminines. Enfin, même Dieu ne sait pas ça. Parce que... Mais qu'est-ce qui est commun à toutes ces formes si diverses? Je ne vais pas dire à cette diversité de robes, hein, on ne peut plus dire ça. Hein. Alors, les éléments communs tiennent en quelques mots. Consécration particulière à Dieu et service de l'Église. On va revenir. Union de la contemplation et de l'amour apostolique. Ça, c'est le numéro 5. Donc, consécration à Dieu ou par Dieu, c'est une vie consacrée. Le baptême aussi, c'est une vie consacrée, n'est-ce pas? Le mariage aussi est une quasi-consécration. Mais c'est particulier ici. Mais dans le service de l'Église, où, quelle que soit la forme, on unit toujours la contemplation et la vie apostolique, toujours. Numéro 6, donc c'est l'amour du prochain, bien sûr, pour le salut du monde et l'édification de l'Église qui est à l'horizon, mais tout cela procède de la vie cachée avec le Christ en Dieu. Il y a toujours une priorité qui est donnée à Dieu, hein, consacrée à Dieu seul, disait numéro 5, on cherche avant tout que Dieu seul, Dieu seul. Et c'est de cet amour pour Dieu seul, de cette vie cachée avec le Christ en Dieu, que procède l'amour du prochain? Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique c'est l'ordre des deux commandements. Les deux commandements, le deuxième est semblable au premier, on sait bien. Mais dans la vie consacrée, le premier, comment dire, fonde beaucoup plus manifestement l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charité, perfecte caritatis, cette charité qui vivifie la pratique des conseils. Donc, on demande aux religieux, numéro 6, qu'ils aient une vie spirituelle intense, dans l'oraison, la méditation de l'écriture, la liturgie, surtout eucharistique, la grande prière de l'Église, donc l'office divin, mais aussi que la vie fraternelle soit ecclésiale. La vie communautaire doit être une vie comme l'Église. Ils étaient assidus à la fraction du pain, etc. Qu'ils aiment leur pasteur, il faut le dire aux religieux, qu'ils vivent et pensent avec l'Église, qu'ils se consacrent à sa mission. Bon, ça, c'est un peu abstrait, dit comme ça, mais enfin, derrière ça, il y a un certain nombre d'options, dans ce numéro 6. Donc, c'est un paragraphe sur la vie spirituelle à cultiver avant tout, d'accord, mais qui s'achève par une exhortation à se consacrer à la mission. Avant tout, la vie spirituelle, et après tout, la mission. Vous comprenez l'expression. Donc, ce qui est commun à toute forme de vie religieuse, c'est de ne vivre que pour Dieu seul, et par là, d'être associé à la mission de l'Église. Comment est-ce que cet élan, Dieu seul pour tous, se vit au concret dans les formes diverses de vie religieuse que j'ai intitulée ici « Diversité de la charité ». D'abord, il y a les numéros 7 à 11, tous construits de la même façon. 1, 2, 3. Toujours une description de cette forme, qui est par exemple les instituts contemplatifs, les instituts apostoliques, la vie monastique, c'est pas la même chose, la vie religieuse laïque, c'est-à-dire les frères, les instituts séculiers, dont je vous parlais tout de suite, voilà, c'est ceux-là qui sont typés. On les décrit à partir de leurs composantes spécifiques, et puis on les appelle chaque fois à la rénovation et à l'adaptation, même les plus récentes. En premier lieu, on considère, au numéro 7, les instituts intégralement ordonnés à la contemplation. Toujours comme ça. On commence toujours par les contemplatifs. Si vous voulez, les carmels, les clarisses, enfin ceux qui feront vraiment que la contemplation, si j'ose dire. Hein. On commence toujours comme ça. On honore la vie contemplative. Et puis les instituts voués à la vie apostolique, dont le propre est d'unir dans un même élan la consécration et la mission, si vous voulez, l'envoi. Et puis il y a la vie monastique et conventuelle, c'est pas pareil d'être bénédictin ou bien d'être clarisse, vous voyez, contemplatif, clarisse, bénédictin, c'est pas contemplatif, c'est conventuel, qu'on distingue au numéro 9, de la vie contemplative. Et puis il y a la vie laïque, les frères en gros, et les instituts séculiers qui vivent dans le monde à la manière d'un ferment. On ne les voit pas, mais c'est le ferment. Cette sorte d'énumération n'est évidemment pas exhaustive, hein. On a pris les grandes formes, et cette ordonnance n'est pas historique, c'est plutôt descriptif, parce que la vie religieuse finalement ne sait jamais la définir. Il faut toujours qu'on décrive. Qu'est-ce que c'est la vie religieuse ? Ça n'existe pas. Il y a telle forme de vie religieuse, il y a telle religieuse. La vie religieuse se vit au concret. Voilà. Pour faire bref, disons, pour ces numéros 7 à 11, que ces religieux, livrés à Dieu et par Dieu à l'apostolat, sont tous exhortés à la perfection de la charité qui va, chez eux, de l'amour de Dieu à l'amour de tous ses enfants. Alors, vient la partie peut-être plus ascétique du document « Chasteté, pauvreté, obéissance, vie commune, clôture, habit, formation ». Ascétique, ça ne veut pas dire pénitentiel. Ascétique, ça veut dire l'entraînement, quoi, pour y arriver. Hein. C'est ça, l'ascèse, l'exercice. Le jogging pour y arriver, c'est ça. C'est les trois vœux, la vie à mener en commun et quelques problèmes d'adaptation. L'ordre des vœux, je vous le disais, toujours celui qui a été pris dès l'Lumen Gentium. La chasteté précédera de façon non interrompue la pauvreté et l'obéissance. Et chacun des vœux, regardez bien, est présentée à partir de son cœur, au fond. La chasteté, qu'est-ce qu'on lui offre comme horizon? Le royaume des cieux. La pauvreté, on lui dit que c'est une suite du Christ. Donc c'est pas le royaume, c'est une suite du Christ. L'obéissance, c'est l'exemple du Christ. Donc il y a à chaque fois une espèce de figure qui est donnée là. Et pour la vie emmenée en commun, c'est la primitive Église, celle qui écoutait l'enseignement des apôtres, était assidue à la fraction du pain, etc. Alors, on demande que la clôture soit adaptée, numéro 16, que l'habit religieux soit modifié, adapté donc, et puis que la formation soit réformée, parce que son vrai, véritable objectif, c'est l'unité de vie. Alors, je dis un mot de ce numéro 18 parce que il est le résumé en quelques lignes de très longues pages qui avaient été au point de départ écrites sur la formation. Mais je trouve très important de donner comme objectif à la formation pas d'acquérir des diplômes, une compétence, etc., mais l'unité de vie, l'unité de la vie, entre toutes les dimensions de la vie. Voilà. Alors, je résume ces numéros, donc ces deux parties de notre diptyque, de 7 à 11 et puis de 12 à 18, bien, des deux côtés, c'est la charité de Dieu, l'amour de Dieu, qui s'exerce dans tous les instituts, de façon singulière évidemment, qui doit se faire visible, signe visible d'une restauration de tous les hommes, qui sera elle-même fondée, dit le numéro 12, dans l'union de l'Église avec le Christ. S'il y a bien un modèle d'unité, c'est celle du Christ avec l'Église. Et aussi, bien sûr, la vie dans l'Esprit-Saint, numéro 15. Et maintenant commence la partie la plus instructive, peut-être pour vous, du document. 19 à 25. Faut-il créer de nouveaux instituts? Faut-il conserver des œuvres propres? Qu'en est-il de l'esprit missionnaire? Ne faut-il pas plutôt supprimer les instituts ou les regrouper? Ces questions sont éclairées, là. Est-ce que les supermajeurs ne pourraient pas mieux collaborer entre eux et avec les conférences épiscopales pour ce qui regarde l'apostolat et même pour ce qui regarde les vocations? Tout ça est indiqué ici. Les critères, en tout cas ici, c'est l'utilité. Est-ce qu'il faut créer de nouveaux instituts? Oui, si c'est utile. Non, si c'est inutile. Est-ce que l'Église en a besoin? Autre critère, besoin de l'Église, qu'elle soit universelle ou locale. C'est l'autorité de l'Église qui est donnée comme juge en ces matières. Pour la vie religieuse, c'est une découverte, n'est-ce pas? Jusque-là, on était inspiré et on fondait. Maintenant, on dit attention, pas sans l'accord des évêques, etc. Sauf pour un numéro, c'est en ce qui concerne les œuvres propres. Les œuvres qui sont vraiment caractéristiques de l'esprit de l'Institut. Là, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Si on sent que c'est ainsi que l'Institut exprime sa spécificité, le don que Dieu lui a donné, qu'on n'appelait pas encore à l'époque un charisme. Donc, dans ce numéro sur les œuvres propres, dont je vous recommande la lecture, c'est le seul moment où il est encore question d'adaptation. Bien sûr, il y a des œuvres propres, c'est très bien, il faut les garder, mais aussi en les adaptant, on le dit même deux fois. Donc finalement, le Concile dit son estime pour ce genre de vie, de la vie religieuse, et son espoir qu'elle se perpétue, parce qu'il s'agit de répandre la bonne nouvelle du Christ dans l'univers entier, et il faut que leur témoignage à ces religieux soit visible. Voilà. J'achève la lecture, et puis je passe au point suivant. La rénovation de la vie religieuse impose de se consacrer plus intimement à Dieu, et de s'unir davantage à la mission de l'Église. Ce fameux plus-plus dont le texte est parsemé, s'unir plus à Dieu, s'unir davantage à la mission de l'Église, dans une charité plus parfaite, mais qui sera diversement pratiquée selon les instituts, toujours procédant de l'amour de Dieu, d'abord en vue du salut des autres, sous l'autorité de l'Église de ce temps. Le cœur de la vie religieuse, c'est de manifester visiblement, socialement, ce que recherche aussi toute autre vie chrétienne, la perfection de la charité. Mais elle doit vraiment le montrer. Pour perfecter Caritatis, la vie religieuse est particulièrement requise de signifier que l'amour de Dieu est efficace et de le faire dans le langage, dans un langage compréhensible pour notre temps. Un langage, ce n'est pas des paroles, c'est un investissement, une pratique. Alors, maintenant, 50 ans plus tard, aujourd'hui, les forces et les faiblesses de ce décret n'ont pas manqué d'apparaître dans la réflexion, mais surtout dans la pratique post-conciliaire, au point de vue doctrinal, ce qu'on a acquis doctrinalement. La théorie, si vous voulez, mais non, on dit la doctrine. Les acquis ne sont pas minces. On a ressourcé le vocabulaire des états de perfection dans l'écriture. Il y a ici 55 renvois à l'écriture. 55. Une au Père de l'Église, 55 à l'écriture. Donc c'est un décret qui est vraiment, j'allais dire, entrelardé, mais non, enfin, comprenez, de citations scripturaires. Fourré de citations scripturaires. On a abandonné la définition des états de perfection, comme on disait jusque-là, pour se ressourcer dans l'écriture et présenter la vie religieuse comme une profession des conseils évangéliques. Profession de pratiquer les conseils évangéliques, qui n'ont pas le monopole de la charité, ces religieux, mais ils montrent, comme toute vie chrétienne, vers où nous devons tendre. Et le décret choisit de ne pas parler d'une division toujours insolublement surmontée entre une vie active et une vie contemplative. Ça, c'est une dichotomie grecque, païenne, si vous voulez. Non. Ici, on décrit chaque forme de vie religieuse pour souligner leur diversité. Et on dit bien, comme dans l'Omen Gentium, qu'il faut faire signe, mais on dit aussi qu'on doit discerner les signes du temps. Doctrinalement, maintenant pastoralement, en pratique si vous voulez. Perfecte Caritatis a été à la source d'un renouveau centré sur les numéros 5 et d'autres, 5, 15 et 3. 5, les éléments communs à toutes les formes de vie religieuse. Et le numéro 6 aussi, hein, primauté de la vie spirituelle. Tout le monde a regardé ce numéro en premier lieu. La directive communautaire du numéro 15, qui disait qu'on ne fera plus de classe. Deux classes de religieux, mais une seule, étaient vécues en pratique depuis certainement la Première Guerre mondiale dans la plupart des instituts, mais pas tous. La prescription du numéro 3, il faut réviser convenablement les constitutions, les directoires, les coutumiers, les livres de prière, de cérémonie et tous les autres recueils du même genre. Cette directive, celle-là, va demeurer dans les mémoires, en tout cas des religieux, parce que elle a été à l'origine d'un immense mouvement de re-rédaction de tous les textes constitutifs avec des chapitres et des chapitres. Enfin, des chapitres, ce n'est pas des chapitres de livres, hein, c'est des réunions qui ont mobilisé les énergies de religieux pendant 20 ou 30 ans. Donc, pour s'adapter, ils ont réécrit leurs textes fondateurs, ils se sont absorbés dans cette tâche et quand ils ont relevé la tête, 30 ans plus tard, le monde avait changé. Et puis, cet approfondissement considérable de la doctrine, même des pratiques, a précisément coïncidé avec un effondrement devenu très manifeste du recrutement et des vocations. Alors, il y a eu des dérives, oui, vers des courants un peu particuliers, mais il y a aussi des replis sur la vie communautaire, le cocooning communautaire, hein, dans les religieux, c'est comme dans les familles. Mais enfin, indépendamment de ces dérives ou de ce repliement, on doit constater que dans les pays occidentaux au moins, la vie consacrée paraît aujourd'hui bien plus faible, apostoliquement parlant, qu'à l'époque du Concile. Peut-être les remèdes sont-ils venus trop tard. Le premier congrès des états de perfection et les premiers appels à la simplification, notamment du costume religieux de Pie XII, sont avant le Concile. Mais c'était quand même peut-être déjà trop tard. Peut-être faut-il connaître un temps d'épreuve pour revenir à l'essentiel. La vie religieuse est aujourd'hui largement dépouillée de son efficacité sociale. Dans sa forme apostolique, les hôpitaux, l'enseignement, etc. Où sont-ils les religieux? Où sont-ils les jésuites? Elle est aussi en difficulté économique dans sa forme monastique. C'est terrible financièrement dans la vie monastique et surtout contemplative. La vie religieuse masculine et féminine se trouve en plus aujourd'hui sévèrement marquée par l'âge grandissant. Les femmes vivent plus vieilles que les hommes, mais les religieuses ne meurent pas. Il y a moins de 2% des membres de la vie religieuse en Europe occidentale qui n'ont pas 40 ans. Moins de 2%. Donc quand quelqu'un rencontre aujourd'hui une religieuse, quelqu'un de la vie religieuse, c'est une religieuse d'abord, c'est pas un religieux, parce que de tiers un tiers, hein, à peu près, trois quarts, un quart. Trois quarts de femmes pour un quart d'homme. C'est donc une religieuse vieille. Très vieille. Très âgée. Comme me disent mes consoeurs, non, pas vieille, âgée. Donc nous sommes dans une situation de crise qui évidemment doit susciter l'espérance. Le temps de crise, c'est un temps de discernement, n'est-ce pas? Mais ça, c'est seulement si on accepte d'émigrer vers les chemins de l'avenir. Alors, et maintenant? Excusez. Je crois, je l'ai dit, que c'est l'insertion du chapitre sur la vie religieuse dans Lumen Gentium qui va rester le plus important pour la vie religieuse post-conciliaire. Ça va?
Non,
ça ne va plus. C'est cassé. En plus, c'est cassé. Hein? Je dois toucher. Encore? Beaucoup de fois? Ça revient, c'est formidable. Je ne bouge plus, je ne peux plus respirer. Donc. Alors, quand même, vous aurez peut-être remarqué la nuance entre Lumen Gentium et Perfecte Caritatis. En tout cas, je vous l'ai dit, une grande nuance. Dans Lumen Gentium, on dit la vie religieuse manifeste l'union de l'Église avec le Christ. Non, pardon. Excusez-moi. Je veux dire que dans Lumen Gentium, on donne la vie religieuse comme étant une figure de l'union du Christ avec l'Église. Voilà, c'est ça. Tandis que dans Perfecte Caritatis, on dit le chemin pour y arriver, subjectivement, par chacun des sujets. Donc on a décrit dans Lumen Gentium l'état religieux. Ici, on dit comment quelqu'un devient religieux ou le devient toujours davantage. Bon. Cela dit, le magistère, l'enseignement donc des papes, surtout des évêques aussi, mais surtout des papes, a tâché d'aider depuis le concile la vie religieuse et la vie consacrée de multiples manières, par de grands documents, dont certains sont des splendeurs. Nous n'avons jamais eu un corps de doctrine aussi fort dans toute l'histoire de l'Église qu'au moment où nous sommes les plus faibles. Ceci n'a rien à voir avec cela. Enfin, comment dire, ceci n'est pas la cause de cela. Quand même, c'est un peu curieux. Je crois donc, en conséquence, en tout cas, qu'une des conditions de l'avenir réside dans la manière dont les religieux vont entendre cet enseignement. Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils le connaissent? Si, dans la vie religieuse, la sensibilité anti-romaine devait l'emporter, ça serait terrible. C'est déjà un peu bizarre que la sensibilité anti-romaine se développe dans les milieux catholiques. Mais pour la vie consacrée, ça va la toucher au cœur si elle se laisse emporter par cette sensibilité. C'est déjà incongru de voir des laïcs et des prêtres se laisser envelopper par toutes sortes de stratégies. Je ne dis pas contestataires, je dis agressives. Eh bien, c'est encore plus inacceptable que les consacrés rougissent de leur lien particulier au pontife romain, qui est, dit le canon 590, leur supérieur suprême. Tous les religieux qui ont fait vœu d'obéissance, qu'ils le sachent ou ne le sachent pas, n'ont pas fait à leur supérieur majeur, enfin, l'ont fait à Dieu, bien sûr, dans les mains de leur supérieur majeur, mais d'abord, canon 590, à leur supérieur suprême, qui est le pape. Non, mais on a aligné tout le monde sur le modèle de la compagnie de Jésus, et personne ne s'en est rendu compte. Et c'est, voilà, au moment où le Concile, pour la première fois de l'histoire, a inscrit la vie consacrée dans le cœur de l'Église, c'est-à-dire au cœur de sa visibilité hiérarchique, que nous devons être témoins de l'Église locale et de l'Église universelle. Voilà. L'avenir de la vie consacrée ne va pas exister hors d'une perspective de communion de toutes les vocations et de tous les états de vie, mais notamment sans les relations mutuelles entre la hiérarchie et les religieux. Ça, c'est notre cordon ombilical, si vous voulez. Bon, vous pourrez en faire la démonstration encore autrement. Je passe sur d'autres points, parce que je propose ici 5 points. En gros, premièrement, donc, rapport avec la hiérarchie. En plus, Perfecte Caritatis nous apprend que l'apostolat de l'Église est impliqué dans l'apostolat des religieux. Numéro 8 de Perfecte Caritatis. C'est l'apostolat de l'Église qui se manifeste quand les religieux deviennent apostoliques. Donc, la vertu apostolique des communautés est aussi demandée. Ce n'est pas seulement les œuvres qui sont apostoliques, c'est aussi les communautés, un témoignage apostolique. Comment voulez-vous expliquer aux gens que l'Église est une famille? C'est dans la vie religieuse, comment vais-je dire? C'est difficile, quoi. Hein? Donc, la reconnaissance de cette spécificité ecclésiale, un témoignage ecclésial à rendre, est vraiment une condition sine qua non pour l'avenir. Donc, accord dans la communion romaine, engagement à la mission dans l'Église, c'est ce qui permet de manifester ce qui est de spécifique dans la vie religieuse. Ce n'est pas un sacrement, la vie religieuse. Ce n'est pas un sacrement. C'est un fruit des sacrements. Fruit du baptême, fruit de la confirmation, fruit de l'Eucharistie, fruit du sacerdoce, fruit du mariage, que je sache. Fruit de la réconciliation, etc. Donc c'est un fruit des sacrements, un sacramental, dit-on, hein. Ce n'est pas un sacrement comme l'ordre et le mariage, ce n'est pas une condition provisoire, bien qu'on relève des vœux, ce n'est pas une condition provisoire de l'existence, comme l'est souvent le célibat avant le mariage ou dans le veuvage. C'est un état de vie stable où l'Église reconnaît une des figures d'elle-même, qu'elle dit une des figures du grand mystère. Le grand mystère, c'est l'union du Christ avec l'Église, comme dit Éphésiens 5. Ce mystère est grand, je le dis pour le Christ et pour l'Église. La lecture qu'on faisait autrefois de préférence au mariage, parce que le mariage aussi est une figure de ce même mystère. Et le Concile prend ce texte d'Éphésiens 5, 32, pour la vie religieuse, pour le mariage, pour le célibat sacerdotal, pour le veuvage, enfin, pour le diaconat, pour tout quoi. Donc tout le monde dans l'Église est référé à un seul mystère, celui de l'union du Christ avec l'Église, avec des verbes différents. Vous savez, la théologie, c'est parfois une affaire de mots. Et un concile, c'est une affaire de texte. Ici, par exemple, pour la vie religieuse, qu'est-ce qu'on va dire? Il représente le Christ uni à son Église. Pour le mariage, on dit « il signifie ce mystère ». On dirait c'est pareil, non? Représenter, signifier, c'est pas la même chose. Il signifie le mariage en y participant. Attention, en y participant. Hein. Les prêtres, s'il y a des prêtres, évoquent les noces mystérieuses voulues par Dieu qui se manifesteront pleinement dans les temps à venir. Hein, évoque, c'est un peu plus loin là. Hein. C'est l'ami de l'époux, hein. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est important, la vie religieuse, mais c'est parce qu'elle est hantée sur le même mystère qui nous donne à tous notre point focal. Bon, Alors, l'originalité de la vie consacrée, c'est de rendre visible, par grâce, cette transcendance de l'amour de Dieu sur tous les autres attachements. Les autres n'ont pas le temps, beaucoup, même pas les prêtres, hein, d'avoir le temps de montrer ça. Nous, c'est notre travail, c'est de le montrer. Un témoignage de surabondance qui comble le cœur, qui se diffuse sans mesure, et qui va donc porter les consacrés aux avant-postes de la mission. Ce sont les gens des avant-postes. Ben oui, ils ont personne derrière eux, ils peuvent y aller aux avant-postes. Donc, insertion dans l'Église, spécificité dans l'Église, et pour l'avenir, le fait que les anciennes générations doivent accepter la grève des jeunes pousses, s'il y en a. Il y a peu de chances, d'un point de vue sociologique, qu'un groupe majoritairement âgé, affecté pendant des dizaines d'années par des évolutions radicales, effrayé par le sentiment de sa disparition prochaine, que tout le monde annonce, et pas peu de chances, statistiquement, qu'il trouve les ressources nécessaires à l'effacement qui s'impose devant les forces les plus jeunes. Quand on sent qu'on va mourir, c'est pas toujours le premier mouvement de se laisser aller, hein. On s'accroche. Mais la vie religieuse n'a-t-elle pas préparé à cette joie de diminuer pour que d'autres grandissent ? Pourquoi ne peut-on trouver dans la vie religieuse, ou l'Occident vieillissant, un modèle où les générations ne s'affrontent pas mortellement entre vieux, très grand nombre de vieux et petit nombre de jeunes, mais s'accordent pour transmettre ce que chacun a reçu ? On peut s'orienter, c'est sûr, vers un partenariat avec des laïcs associés, comme on dit. Et souvent, on le doit. Mais la vie religieuse ne peut pas se dispenser de connaître en son propre sein cet enfouissement pour que les plus jeunes les trouvent disponibles et qu'ils puissent assumer ou renouveler les valeurs de l'Institut. Ça, c'est condition de survie. Hein. Condition de survie, c'est que les jeunes vivent. Il serait dommageable que les dernières forces jeunes soient mobilisées dans les familles religieuses pour le soin des aînés, en clair, lesquels d'ailleurs ne le demandent pas. Ils n'en demandent pas tant. Une politique courageuse d'affection des jeunes a de plus grandes responsabilités, très tôt, pas très tard, très tôt, ne serait pas suffisante. Il faut soutenir, évidemment, des engagements. Si vous nommez des jeunes capitaines, il faut mettre des gens tout autour, hein, par des communautés spirituellement vigoureuses. Et spirituellement vigoureux, ça, ce n'est pas une question d'âge, d'abord. Et puis, même si ça semble curieux de parler de ça, il faudrait quand même aussi parler du régime économique des instituts religieux. C'est une condition de l'avenir. Depuis 50 ans, la doctrine au sujet de la pauvreté s'est beaucoup améliorée dans les instituts religieux. Mais certains points sont restés dans l'ombre. Les propriétés et les biens des instituts. La gestion des institutions tenues par les congrégations. Pas le milliard des congrégations, mais enfin, presque. Le rôle des économes. Qui décide ? L'économe ou le supérieur, finalement ? Voilà, il y a des lacunes, là. Justement, en même temps qu'on se trouve dans une sorte de faiblesse de la théologie du travail. Oui, c'est mieux la civilisation des loisirs. Bon, faiblesse de la théologie du travail, faiblesse de la théologie de la providence, difficile rapport entre le vœu de pauvreté et la présence du Christ dans les pauvres. Est-ce que les religieux sont maintenant auprès des pauvres ? Oui ou non ? Tout ça invite à la réflexion. Est-ce que la vie religieuse va manifester, plus clairement qu'elle ne le fait, le style évangélique de son administration, parce qu'elle est évangélique dans son administration financière. Pourquoi le constant effort de partage entre le Nord et le Sud est-il si caché ? Il y a un fleuve d'argent qui descend du Nord au Sud. Personne ne le sait. Je parle de la vie religieuse. L'échange des dons entre le Nord et le Sud, le Nord riche en formateurs, riche en bibliothèques, riche en argent, et le Sud, on n'a ni argent, ni formateur, ni bibliothèque, mais on a des sujets. Cet échange ne peut-il pas s'opérer dans plus de transparence, plus de clarté ? La vie religieuse s'est toujours renouvelée quand elle est devenue plus pauvre. À bien des égards, c'est donc sa condition aujourd'hui. Elle est très pauvre en Occident. Pas d'argent, mais elle est pauvre, de personne. Elle est vieille et elle est méprisée. Sister.com, là. C'est ça. Vous connaissez, .com. Sœur-Thérèse.com, c'est ça? Dans les médias, vous avez vu l'image de la vie religieuse? Les cas ne manquent pas en Belgique et ailleurs, vous lisez les journaux, de problèmes considérables liés à la dévolution de biens des instituts finissants. Le droit canon n'est pas connu. Le droit civil est souvent seul pris en compte. Alors, les derniers membres sont comme les propriétaires d'un immense patrimoine qui ne leur revient pas. Ce sont des biens d'église, quand même. C'était constitué par les dons du peuple chrétien. Il n'y a pas besoin de s'acheter un château en France et de mettre un bar dans sa Mercedes, comme on l'a vu chez les Clarisse Colettine de Bruges, n'est-ce pas? Et tout ça, ça nous pose des questions. Il arrive que les biens d'église, que sont les avoirs patrimoniaux et financiers des couvents, se volatilisent. On vend des promoteurs immobiliers, plus ou moins fiables, et l'argent disponible est, dans le meilleur des cas, englouti dans les soins aux personnes survivantes, qui vont mourir quand même. Donc tout va disparaître. Ce qui signifie la fin imminente des fruits d'une générosité de toute la communauté chrétienne accumulée sur plusieurs siècles. Ce sont des cas marginaux, mais enfin. D'autre part, et enfin je termine par là, il y a aussi des évolutions législatives observables en Europe qui sont à rencontrer. Avant, le droit civil contrôlait l'application du droit canonique et puis c'est tout. Mais maintenant, on n'en est plus là. Le droit civil s'insinue partout. Si l'État devient la vraie référence du droit dans l'Église et dans la vie religieuse, comment est-ce qu'on va renoncer à certains droits fondamentaux et le faire d'une façon qui ne soit pas considérée comme illégale, discriminante, etc. Est-ce qu'on peut renoncer à se marier? Est-ce que les supérieurs peuvent vous attribuer une mission et un lieu de résidence? Est-ce que y a des gens qui ont attaqué leurs anciens supérieurs au tribunal civil parce qu'ils n'ont jamais pu prendre leurs vacances à leur convenance? Ben oui. Dans la vie religieuse, on ne prend pas les vacances à sa convenance, quand même. Et on ne choisit pas non plus son lieu d'affectation, son lieu de résidence, son métier, son lieu de travail, son emploi. Donc, les vœux des religieux impliquent de renoncer au mariage et qu'on a renoncé à choisir sa résidence, son travail professionnel, ses loisirs. Est-ce que la législation européenne va nous permettre longtemps de le faire? Et à quelles conditions? Je conclue, je l'ai dit, je conclue. Comment peut-on encore être religieux? Comment les religieux du Nord, qui ne sont pas tous grabataires, n'est-ce pas? Comment les religieux du Nord sont-ils si peu expressifs de l'amour qui les a un jour rejoints? C'est vrai, ils se taisent, les religieux, comme les chrétiens d'ailleurs, mutisme. Quand on a passé l'âge de l'amour, comme disait Sarah, c'est dans la Genèse, Genèse 18. Quand on a passé l'âge de l'amour, peut-on encore enfanter? Qui a décrété qu'une absence de vocation, même durant des décennies, signifiait un échec de l'engagement, une punition divine, une stérilité définitive, une disparition prochaine? Non, les temps actuels représentent, à mon sens, vraiment une chance, un kairos, un moment divin, une invitation du Christ lui-même à le trouver là où il nous appelle, quoi qu'il en soit du soutien dont nous avons besoin, n'est-ce pas, des chrétiens laïcs et des pasteurs, devant notre faiblesse et notre vieillissement. L'avenir de la vie religieuse est devant nous.